auditeurs et auditrices de Radio Ndekeluka, bonjour et surtout bienvenue dans votre émission Patara consacrée à l'accord de paix du 6 février 2019, un an après sa signature. L'accord de paix signé le 6 février entre le gouvernement et 14 groupes armés a aujourd'hui un an. L'heure est donc au bilan et l'évaluation de ce long chemin vers la paix. Pour le gouvernement, l'accord de paix a été un succès qui a permis le déploiement des FACA dans les zones où elles n'y étaient pas par le passé, favoriser la croissance économique qui se stabilise finalement à 4,5%, réduire les violences et pour le Premier ministre, les combats à Bria, à Lindao et Birao, quoiqu'une violation de l'accord ne justifie pas la colère des groupes armés contre l'État, mais plutôt des dissensions en leur sein. Si le gouvernement se félicite de ce que l'APR reste le seul cadre pouvant conduire la RCA à la paix, il concède par la même occasion que des pas importants restent à relever. Une vision partagée par la communauté internationale qui apporte son soutien à l'accord. Sur le terrain, les groupes armés ne sont pas tous sur la trajectoire du gouvernement. Les anti-Balaka El Ngaïstona restent sur leur soif et attendent voir clair dans le processus, surtout le financement des engagements. Un an après, les groupes armés ne sont pas dissous. Le désarmement est partiellement effectif. Les 14 groupes armés, dans leur prise de parole à l'occasion de l'anniversaire, ont fait leur mea culpa. Est-ce à dire qu'en célébrant l'accord, les violences vont cesser? La question reste posée. La société civile ne décolère pas contre les garants et facilitateurs de voir le tapis rouge déroulé aux leaders des groupes armés et table sur la justice pour arrêter ces chefs rebelles. Les garants et facilitateurs tablent sur le renforcement du régime de sanctions contenant dans l'article 35 de l'accord. Bref, l'accord de paix n'est pas encore la paix. Il faut travailler pour avoir la paix, dixit le Premier ministre Firmin Grevada. Question, quel bilan peut-on faire de l'accord? Le renforcement du régime de sanctions pourra changer la donne. Les difficultés entourant le processus DDRR rendront-elles possibles les élections groupées de fin d'année? Quelques questions dont nous cherchons ensemble des réponses. Pour débattre, nous recevons M. Dominique Désiré Erénan, enseignant-chercheur à l'Université de Bangui. M. Erénan, bonjour.
Bonjour.
Aristide Brion-Reboise, président du Parti chrétien-démocrate, spécialiste en matière de sécurité. M. Reboise, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Nous recevons aussi M. Évariste Ngamana, directeur de cabinet au secrétariat général du gouvernement, porte-parole du mouvement Cœur Uni. M. Ngamana, bonjour.
Bonjour Jean-Fernand et bonjour à tous nos auditeurs.
Nous avons aussi autour du plateau M. Paul Cresson Beninga, porte-parole du groupe de travail de la société civile GSTC. M. Beninga, bonjour.
Bonjour Jean-Fernand, bonjour aux auditeurs de la radio Ndekeluka.
Au centre de l'émission, appelez-moi Jean-Fernand Kouina sur les 1001 boutons. C'est le travail de Diane Stéphanie Bokula, émission Patara. C'est tout de suite après cette courte transition musicale.
Vous écoutez Patara, le débat politique sur Radio Ndekeluka.
Ouvrons cette question par vous, Monsieur Évariste Ngamana. Êtes-vous aussi de l'avis du gouvernement qui pense que aujourd'hui l'accord de paix est insatisfaisant?
Je vous remercie d'abord pour l'occasion que vous nous offrez aujourd'hui pour débattre de cette question qui est relative à l'accord de paix pour la République centrafricaine dont nous venons de célébrer le premier anniversaire. Je crois que à cette réponse, je ne pourrais pas être tellement objectif parce que, à voir ce qui se passe sur le terrain, nous pouvons être tentés de croire que l'accord pose problème aujourd'hui. Mais néanmoins, il faut reconnaître qu'il y a eu beaucoup d'avancées. Et si nous avons bien suivi dans le discours du chef de l'État hier, il a fait le point de toutes ces avancées-là, du côté du gouvernement, notamment en ce qui concerne ses engagements. Il a relevé aussi quelques manquements de la part des groupes armés et a appelé l'attention des garants et des facilitateurs à ce qui est dorénavant la fermeté dans l'application des sanctions relative à cet accord-là. Donc, pour me résumer, je crois que cet accord, on ne peut pas dire au jour d'aujourd'hui que c'est insatisfaisant parce que beaucoup reste à faire. Pour souvenir, nous avons eu écho de quelques regains de tension, de violence qui s'est déroulé dans certaines régions de notre pays, notamment à Birao, à Lindao, à Bria, qui ne donnent pas vraiment satisfaisant au peuple centrafricain parce que, après tout, ce que le peuple veut, c'est la paix et la paix durable.
Mais au regard de la situation, le balbutiement vient de la part des garants et des facilitateurs, si on comprend le chef de l'État. Mais si on voit bien le régime de sanctions dont a évoqué les garants, et les facilitateurs. On se souvient que par le passé, le gouvernement et la MINUSCA n'ont pas attendu le renforcement de ce régime de sanctions pour frapper Abdoulaye Miskine. Et aujourd'hui, face à certains groupes armés, on parle de régime de sanctions.
Non, je ne voudrais pas porter un jugement de valeur ni me placer à la place du président de la République parce que un philosophe a dit la fonction de penser ne se délègue point. Je voudrais tout simplement porter à la connaissance du peuple qui nous écoute en ce moment que le comité de suivi qui a été mis en place au sortir de la signature de cet accord a eu à se réunir à 6 reprises et des recommandations, notamment au nombre de 51, ont été définies. Et maintenant, ce qui pose problème, effectivement, c'est l'application des sanctions à l'encontre des groupes armés qui n'honorent pas leur engagement. Et je reconnais à ce niveau qu'il y a beaucoup de manquements. Seulement, on ne peut pas, au jour d'aujourd'hui, condamner de manière ferme la position des facilitateurs et des garants. Il faut reconnaître tout le travail qui a été fait par le passé. Mais comme je l'ai dit d'entrée de jeu, le chef de l'État les a appelés dorénavant à une fermeté dans l'application de ces sanctions.
Ok, monsieur Dominique Désiré Erénon, enseignant-chercheur, dites-nous quel bilan aujourd'hui faites-vous de l'accord de paix un an après sa signature?
Merci Jean-Fernand Koïna. Je pense qu'il faut commencer par reconnaître que l'accord politique pour la paix et la réconciliation qui a été négocié et paraffé à Khartoum et qui a été ensuite signé le 6 février 2019 à Bangui est un instrument qui permet au peuple centrafricain d'aller vers la paix, d'aller vers la réconciliation nationale. En un mot, de taire les armes et de restaurer la sécurité, de rétablir l'autorité de l'État sur toute étendue du territoire et de faire en sorte que les Centrafricains puissent retrouver un train de vie normal, comme ce fut le cas par le passé, avant que les rébellions apparaissent dans ce pays et se lancent dans la conquête et la captation du pouvoir, dans l'exercice du pouvoir, en lieu et place de ceux qui devraient le faire, c'est-à-dire les partis politiques. À titre préliminaire, moi je peux dire que l'accord politique, vraiment c'est un instrument qui est bon pour la recherche de la paix. Sauf aujourd'hui, comme l'a dit mon frère Ngamana, le problème se pose au niveau de l'application. Et qui dit application dit la question de la sincérité des acteurs. Ceux qui ont signé l'accord politique pour la paix, est-ce qu'ils sont sincères? Parce que quand on prend des engagements et qu'on est sincère, on les exécute de bonne foi. Mais lorsqu'on n'est pas sincère, eh bien, on fait de la perfidie.
Mais pour contourner la sincérité, il y a l'article 35 qui devait contrer tous ceux qui ne sont pas sincères à être sincères.
Mais il est temps, le président de la République l'a dit hier, à un moment donné, il faut passer à la fermeté. Aujourd'hui, le peuple centrafricain qui croit en cet accord attend de voir des sanctions être prononcées à l'égard de ceux qui continuent à ne pas respecter leurs engagements. Ils ont signé des engagements, il faut qu'ils les respectent. Le gouvernement a respecté ses engagements pour la plupart des obligations qui étaient contenues dans l'accord. Mais du côté des groupes armés, il faut le dire, eh bien, il y a un problème d'application, il y a un problème de respect des engagements pris par les groupes armés. Et ça, aujourd'hui, ça remet en cause, justement, l'accord politique pour la paix.
Ça remet en cause l'accord politique pour la paix, monsieur Aristide Bruyant-Reboiz, quand on voit la manière avec laquelle l'énergie utilisée par le gouvernement pour mettre Abdoulaye Miskine hors d'état de nuire et qu'aujourd'hui, le gouvernement et la MINUSCA n'étaient pas à même d'utiliser cette même énergie pour contraindre Ali Daras, le MPC et bien d'autres groupes rebelles. En quoi cela vous inspire?
Je vous remercie. Mais je pense que j'aborderai la question autrement.
C'est-à-dire?
Je ne dissocierai pas Abdoulaye Miskine de Daras, ni de Al-Khatim, ni de, je ne sais pas, Abdoulaye Hussein. Un groupe armé est un groupe armé. C'est-à-dire au niveau de l'objectif, il faut comprendre, il y a deux choses à savoir. La nature même de cette crise, la définition même de cette crise a été faite avec beaucoup d'erreurs ou de méconnaissance de la réalité de ce qui se passe sur le terrain. Du côté du gouvernement, je n'ai jamais douté de la bonne foi du gouvernement. Je n'ai jamais douté de la volonté sincère du président de ramener la paix. Mais la méthode employée pour la paix n'est pas basée sur des éléments qui devraient permettre de bien définir les choses et apporter des solutions appropriées. Abdoulaye Miskine, ce qu'il cherche, c'est pas d'être président. Ce qu'il cherche, c'est d'être un général. Parce qu'il est en peine de reconnaissance de ses grades. C'est pas ce qui a fait de lui général. On a dit de lui qu'il est général, mais jamais il n'est pas reconnu comme un général. Lui, c'est tout ce qu'il cherche, c'était ça. À la fin, l'accord naturellement a permis, c'est-à-dire au-delà des considérations personnelles, que ce soit d'Abdoulaye Miskine, que ce soit des autres groupes armés, il y a une réalité que beaucoup ignorent. Et cette réalité est due à deux facteurs. Deux facteurs, Et le premier facteur, c'est le cas de M. Darras. M. Darras a un calendrier, effectivement, qui aujourd'hui est très compliqué à comprendre, même pour la communauté internationale, même pour le gouvernement, et à un niveau d'information là où je suis, je pense que personne n'a rien compris et on est en train d'être retiré au bout de mousse.
Donc, si je vous comprends bien, l'accord a péché par son élaboration elle-même.
Non, l'élaboration, effectivement, je veux parler de là des objectifs cachés qui rend l'application difficile.
Les objectifs cachés, c'est quoi, selon vous?
Les objectifs cachés, d'abord, un, primo lié à l'objectif de l'UPC. Comprenez bien que l'UPC a un calendrier qui ne se décide pas ici, en Centrafrique. Il a un calendrier décidé depuis le nord du Nigeria. Et je pense que pour ceux qui étaient proches de moi, j'avais déjà dit 2 mois avant qu'il y aura un accord à Khartoum. Et à cette occasion, la démission de Sarandi sera effective. Et j'ai expliqué pourquoi. Parce qu'il était victime de sa thèse sur les Mbororo. Depuis le sultanat de Dan Fodjo, quand les Seleka avaient envoyé une demande pour demander aux autres musulmans de venir à leur secours, c'est à ce moment-là que les Darras et les Babalade étaient venus pour prendre part à la coalition Seleka. Le 25 août 2014 a été créé UPC. L'UPC a été créé au nord du Nigeria. L'objectif, c'est de mettre en place un état, un califat des Peuls en République centrafricaine.
Mais tout ça là, c'est l'historique. Mais maintenant, quand on est devant les faits et qu'on a en face un accord, qu'est-ce qui peut aujourd'hui justifier le fait que Ali Darras, signataire de l'accord, ne peut pas respecter ses engagements?
Mais je m'en vais expliquer, c'est par rapport aux objectifs. L'accord a été signé. L'accord pour les groupes armés permet de gagner seulement du temps. Vous voyez?
Donc la manœuvre dilatoire est du côté des groupes armés.
De groupes armés.
Ok, nous avons compris, monsieur Paul Cresson Beninga, vous n'êtes pas d'accord avec la célébration de l'an 1 de l'accord de paix dû aux présences des leaders des groupes armés. En quoi vous êtes gêné et qu'est-ce qui peut aujourd'hui justifier votre prise de position?
Merci. Je suis fondamentalement choqué par la présence de certains leaders des groupes armés à Bangui, capitale politique de la République centrafricaine, et au sein du palais, qui est la plus grande institution du pays. On a évoqué ici autour de cette table la question du bilan de cet accord. De mon modeste point de vue, lorsqu'on essaye d'analyser cet accord devrait nous permettre d'avoir 2 choses. La première, c'est la dissolution des groupes armés 90 jours après sa signature. Et la seconde, c'est le désarmement total de ces groupes armés. Et ça va de soi, lorsque les groupes sont dissous, et ça va de soi que les éléments armés doivent être désarmés. Aujourd'hui, le bilan, il a été fait autour de cette table. Et c'est de dire que le bilan, il est mitigé. Parce que le désarmement n'est véritablement pas effectif, d'une part. Et d'autre part, aucun groupe armé, exception faite de RJ, aucun groupe armé n'est dissous. Ça veut dire que pour moi, ce qui est fondamental dans cet accord, c'est de créer les conditions d'une paix durable. Créer les conditions d'une paix durable, c'est-à-dire qu'on ne doit plus entendre parler des crépitements d'armes. On ne doit plus entendre parler des tueries par des groupes armés. Ce qui n'est pas le cas. Je n'ai pas envie de rappeler Bria, je n'ai pas envie de rappeler Aline Dao, je n'ai pas envie de rappeler Koundili, je n'ai pas envie de rappeler tout ce qui se passe en termes de tueries, en termes d'incendies, en termes de pillages après la signature de cet accord, 1 an après. Ceci étant, ça veut dire que quelque part, il y a un problème. Et pourquoi je suis choqué? Je suis choqué parce qu'effectivement, les gars et facilitateurs de cet accord-là ne sont pas sérieux. Autant, on peut ici autour de cette table, comme Revois cela si bien souligné, reprocher à un certain nombre de groupes armés, notamment l'UPC, pourquoi pas le MPC, pourquoi pas les 3R, d'être de mauvaise foi, ce qui est un fait. Autant, on peut également dire des garants et des facilitateurs de cet accord qui sont également de mauvaise foi. Et je vais vous dire pourquoi ils sont de mauvaise foi. Je ne peux pas comprendre ici, autour de cette table, que lorsque Sidiki, lorsque Ali Darassa, ou encore Al-Khatim commet des exactions, on a de la peine à les identifier, on a de la peine à les localiser. Mais lorsqu'il s'agit de les faire venir à Bangui pour pouvoir célébrer l'an 1 de l'accord politique pour la paix et la réconciliation, les garants ont pu facilement localiser ces derniers et ont pu facilement organiser leur déplacement. Pour moi, c'est une insulte. Insulte à la mémoire des Centrafricains. C'est une insulte. Insulte à toutes les victimes qui continuent de souffrir des faits, des exactions, des crimes commis par ces étrangers. Faut-il le rappeler à dessein? Quand Reboise le dit ici autour de cette table, en rappelant que l'UPC a été créé hors du territoire centrafricain en 2014. Mais parce que l'UPC a un agenda caché, il devrait aller loin dans ses analyses en rappelant les objectifs qui sont assignés à cette organisation. Oui, oui. Ceci étant...
Mais vous conviendrez avec moi que au-delà des objectifs de l'UPC, l'UPC a signé l'accord à s'est renoncé à l'idée de la partition de la République.
Mais c'est faux. C'est faux, je vais vous dire pourquoi est-ce que c'est faux. Regardez la position de l'UPC après la signature de l'accord. L'UPC était dans la Ouaka. Aujourd'hui, l'UPC se retrouve dans la région de la Fakaka. Ça veut tout dire. Pourquoi l'UPC continue cette politique d'extension? Ce que je voulais dire en finissant, ce qui concerne les garants, ça traduit deux choses. La première, c'est que les Centrafricains ont tendance toujours à croire à un miracle. Ce miracle qui serait venu d'ailleurs. Parce que je ne peux pas comprendre pourquoi est-ce que dans tous les discours officiels, on continue toujours d'avoir recours aux garants. J'ai comme l'impression qu'on ne croit pas au génie centrafricain. Mais ce qui s'est passé, c'est que c'est parce qu'on est en République centrafricaine. On est aujourd'hui en face d'une situation qui est telle que je suis tenté de dire que le peuple centrafricain est démissionnaire. On ne reconnaît plus ce peuple centrafricain qui, dans les années 79, a pris à bras le corps, le destin ou la destinée de son pays. On ne reconnaît plus ce peuple centrafricain qui, dans les années 80-90, avec les 4 CN, ont décidé de refaire la chose de façon autrement.
Mais monsieur Beninga, j'ai envie de vous poser cette question. Quand aujourd'hui, grâce à l'accord, le gouvernement arrive à déployer des FACA dans les zones où elle n'était pas par le passé, ce n'est pas une stratégie qui peut in fine profiter à la paix.
Le déploiement des FACA est une autre chose. La réalité sur le terrain en est une autre. J'ai pas envie de rentrer dans ce débat, mais vous me poussez à le faire. Je vais dire très rapidement une phrase concernant la question que vous m'avez posée. Vous savez, on a déployé les FACA. Faites le terrain. Qu'est-ce que la MINUSCA, qui fait partie des garants? Vous savez que la MINUSCA et les garants, les facilitateurs, constituent un office d'obstacle au déploiement des FACA. Bien que les FACA soient déployés, mais sur le terrain, les FACA n'ont pas la main libre. Regardez ce qui s'est passé à Alindao. Est-ce qu'on a donné l'opportunité aux FACA de riposter? Les FACA ont été mis en quarantaine. Ça veut tout dire. On est en train de nous tromper. Moi, j'ai envie qu'on ait dans ce pays un leadership visionnaire, un leadership fort, un leadership rassembleur pour permettre de mettre hors d'état de nuire tous ces bandits armés qui continuent de nous piller. Il n'y a qu'en République centrafricaine, et je ne me répéterai jamais assez sur cet aspect-là, que les étrangers prennent un pays en otage.
Ok, monsieur Évariste Ngamana, aujourd'hui, l'accord de paix signé avait suscité autant d'espoir de voir les groupes armés disparaître après, de voir le DDR opérationnel avec le financement qui accompagne. Mais qu'est-ce qui peut aujourd'hui justifier le fait qu'aujourd'hui, un an après l'accord, il n'y a pas assez d'avancées dans la mise en œuvre du processus DDR.
Bien, merci. Avant de répondre directement à votre question, je voudrais très rapidement faire une rétrospective parce que avant la signature de cet accord, il faut se dire que nous avons deux possibilités. La première, soit c'est de faire la guerre avec les groupes armés, ce que le gouvernement ou bien l'État n'avait pas les moyens. Et la deuxième, c'est de faire la paix à travers un dialogue qui devait aboutir à cet accord-là. Et comme le chef de l'État l'a rappelé dans son discours, il a pris l'option de la paix. Dès même son accession à la magistrature du suprême de l'État, il a mis comme priorité la paix, la sécurité et le relèvement. Et il est resté constant dans sa logique jusqu'à aujourd'hui. Sauf que cet accord démontre aujourd'hui, aux yeux de Centrafricain lambda, qu'il y a beaucoup de manquements. Je suis d'accord avec mon frère Beninga. Sa colère est légitime. Pourquoi? Parce que nous avons comme impression qu'il y a une sorte de deux poids, deux mesures dans l'application des sanctions relatives à cet accord-là.
Mais qui doit donner le temps?
J'en viens. Vous avez, dans cet accord, c'est structuré de cette manière. Premièrement, vous avez les engagements, en dehors des préambules, vous avez les engagements qui concernent le gouvernement, notamment au nombre de 21. Et c'est consacré dans l'article 4 de cet accord. De l'autre côté, vous avez aussi les engagements qui concernent les groupes armés, consacrés dans l'article 5 et assortis des sanctions qui devaient être prises par les garants et les facilitateurs. Moi, j'ai bien parcouru cet accord et j'ai vu que c'était les garants qui devaient définir les types de sanctions en accord avec le comité exécutif de suivi, etc. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes tentés de croire qu'il y a une sorte de, je ne voulais pas dire, de léthargie parce que nous ne pouvons pas comprendre qu'un élément de 3 heures, Sidi, qui avec ses éléments, avait causé les exactions de Koudili et autres, ont été réprimés et on l'a contraint même à revenir sur Boire et aujourd'hui, ces éléments ont été démobilisés. Certains sont rentrés dans le dispositif de l'unité spéciale mixte de surveillance.
Cela a été fait sur la demande du gouvernement, bien sûr.
Oui, à la demande du gouvernement, mais avec l'action de la MINUSCA. Parce qu'il faut se dire une vérité autour de cette table. Aujourd'hui, le gouvernement ne dispose pas des forces coercitives par manque de moyens conséquents parce que c'est lié à un handicap qui est là, qui est l'embargo qui continue de peser sur l'armée de notre pays. Nous en avons pour preuve dernièrement quand il était question de la levée totale de cet embargo pour permettre à l'armée non seulement d'avoir les moyens conséquents, des armes lourdes pour son action, sa mobilité, et nous voyons qu'il y a eu juste un allègement et l'embargo a été reconduit pour quelques mois. Ça, c'est un handicap vraiment majeur à l'action de notre armée sur le terrain, qui est un outil de souveraineté. Il faut le savoir. Nous n'avons pas la capacité aujourd'hui de contrôler les groupes armés par manque de ce moyen-là.
Entre août et septembre 2019, le gouvernement a bénéficié par l'appui de la Russie.
Ça ne suffit pas. C'est des armes légères. Vous avez vu, même dans les critères qui ont prévalu l'allègement de cet accord, vous avez le type d'armes qui ont été autorisées. Même récemment, c'est des types de blindés, hein, légers. C'est pas avec des canons, avec des mitraillettes. Vous allez faire quoi en face d'un groupe armé ou des groupes armés qui ont des moyens hyper, Et on se dit, on ne fabrique pas les armes en centrafrique. Comment comprenez-vous que pendant 4-5 ans, les gens continuent de tuer, de piller, au vu au sud de tout le monde, sans pour autant que la communauté internationale, je n'accuse pas la communauté internationale, mais sans pour autant que tous les partenaires qui viennent nous aider puissent savoir par quel réseau arrivent ces armes-là.
Okay.
Aujourd'hui, il est question de donner tous les moyens à l'armée centrafricaine. Et en ce moment-là, dans tous les pays au monde, nous avons vu en RDC, nous avons vu en Côte d'Ivoire, mais l'armée travaille aux côtés des forces internationales avec les moyens qui sont les siennes.
Ok, nous comprenons aussi votre interrogation. Monsieur Dominique Désiré et Renan, l'accord de paix a fixé des chronogrammes d'action pour être exécuté. Mais aussitôt, un an après, on n'a pas vu l'évolution graduelle dans la mise en œuvre de l'accord. Qu'est-ce qui aujourd'hui reste à cet accord un an après sa signature?
Écoutez, j'espère pour ma part, en tant que constitutionnaliste, que il n'y aura pas de l'an 2 de cet accord. Je le dis ici comme je le pense, parce qu'il faut qu'on reparte à l'ordre constitutionnel. Je voudrais profiter de cette tribune pour lancer un appel solennel à tous les responsables des groupes armés qu'ils doivent tenir leurs engagements. Il faut qu'ils cessent de faire de la perfidie, comme je l'ai dit dans mon propos liminaire, parce que le gouvernement n'était pas obligé de signer un quelconque accord, parce que nous avons aujourd'hui, depuis 2016, des autorités légitimes élues par le peuple centrafricain qui doivent travailler sur la base d'un document qu'on appelle la Constitution. La Constitution. Et cette Constitution ne fait pas de la place pour les groupes armés. Ce dont nous parlons là, l'accord de paix, ça a l'air normal. Mais d'un point de vue juridique, en tant que constitutionnaliste, je vous dis, c'est une situation anormale. La situation normale, c'est lorsque nous sommes dans un État qui est soumis aux normes constitutionnelles, aux normes législatives, etc.
Mais vous comprenez que c'est parce que l'État n'avait pas la force qu'il faut que l'État ait obligé.
Absolument, je suis d'accord. Mais comme je l'ai dit, ça a été un instrument. C'est un instrument pour rechercher la paix. Mais il ne faut pas que cet instrument perdure dans la durée. Il faut que, rapidement, l'accord de paix, disons, soit appliqué, que les groupes armés cessent de faire de la perfidie, qu'ils appliquent leurs engagements, qu'on vide l'accord de sa substance parce qu'il est totalement appliqué et qu'on revienne à la République. Les groupes armés, ils sont en marge de la République. Je les invite à retourner dans la République. Et retourner dans la République, c'est d'abord appliquer de bonne foi les engagements qu'ils ont pris dans l'article 5. Et je ne comprends pas aujourd'hui. Quand on dit l'an 1, là, j'espère que, comme je l'ai dit, il n'y aura pas de l'an 2. Parce que les groupes armés, ils ont pris l'engagement de s'auto-dissoudre. Ils n'ont pas été créés par décret, les groupes armés. Ils ont été créés de façon insidieuse.
Informelle.
De façon informelle, insidieuse. Aujourd'hui, ils existent et ils s'identifient à l'armée. Parce qu'ils posent des actes militaires sur le terrain. Ils s'identifient au groupement politique, c'est-à-dire au parti politique. Parce qu'ils ont réussi à conquérir le pouvoir d'une manière ou d'une autre. Ils ont capté le pouvoir à travers les institutions qu'ils ont investies. Et ils exercent aujourd'hui le pouvoir au sein du gouvernement. Ils exercent le pouvoir au sein du cabinet, de la primature, de la présidence et dans d'autres institutions de la République. Alors qu'ils ne sont pas fondés à capter le pouvoir du peuple centrafricain et à l'exercer d'une manière ou d'une autre. Donc aujourd'hui, la question fondamentale qu'on doit se poser après un an d'application de cet accord, pourquoi est-ce que nos frères des groupes armés n'ont pas dissous leur mouvement? Leurs mouvements n'ont pas vocation à durer. Ils doivent disparaître au bout d'un certain temps. S'ils sont vraiment engagés pour la paix, ils doivent s'auto-dissoudre en tant que groupe armé
et laisser les institutions telles que prévues dans la Constitution exister et continuer de travailler au relèvement de notre pays, travailler pour que notre pays puisse se développer.
Mais se mettant peut-être à la place des groupes armés, peuvent dire que leur dissolution est tributaire du processus de désarmement.
Mais tout le monde aujourd'hui est d'accord pour reconnaître que le président de la République, toi, dira, il a beaucoup fait. Tout le monde est d'accord pour dire que le premier ministre, Firmin Grébada, il a beaucoup fait. Le gouvernement fait sa part, applique de bonne foi. Le gouvernement applique de bonne foi les termes de l'accord, notamment les engagements fixés à l'article 4 de l'accord de paix. Mais quand vous faites l'inventaire des engagements qui sont listés à l'article 5 qui concernent les groupes armés, eh bien, même si certains engagements sont exécutés, ce n'est pas de façon totale. Et je vous dis, le premier engagement, ça devait être l'autodissolution. Ils sont dans le gouvernement, mais ils ne doivent plus agir en tant que groupe armé. Aujourd'hui, on doit parler d'ex-groupe armé et non pas de groupe armé, parce qu'ils ont signé l'accord.
Mais quand ils sont dissous, au nom de quelle entité vont-ils rester au gouvernement? Eux, ils veulent aussi exister. C'est pourquoi ils refusent de s'autodissoudre. Hein? Par conséquent, le seul moyen qui reste, voilà, c'est de les contraindre par la force à s'autodissoudre.
Voilà, c'est là où je voulais en venir. Vous n'allez pas contribuer tout de même à l'institutionnalisation des groupes armés dans notre pays. Les groupes armés ne sont pas des institutions au sens républicain du terme. Quand je vous dis qu'ils s'identifient à l'armée, l'armée a une existence constitutionnelle, c'est l'article 27. Les groupes armés n'ont pas d'existence constitutionnelle. Ils ne sont pas une institution au sens de la République. Ils s'identifient aux forces armées. Ça, c'est dingue. C'est interdit. Parce qu'ils posent des actes militaires. Ils contrôlent une partie du territoire. Ils remettent en cause l'autorité de l'État. Ils empêchent le rétablissement de l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire. Et c'est un problème avec toutes les conséquences que vous connaissez. Et en plus, ils s'identifient aussi aux groupements politiques. C'est pour ça qu'on les appelle les politico-militaires. Militaires parce qu'ils s'identifient à l'armée. Bonjour. Et puis politique parce qu'ils s'identifient au parti politique, puisque aujourd'hui ils sont représentés, ils se retrouvent à exercer le pouvoir d'une manière directe ou indirecte à travers leur représentation dans les différentes institutions de la République. Et moi, je plaide pour que justement les groupes armés disparaissent, parce qu'ils ne sont pas pris en compte dans la constitution du 30 mars 2016. Et comme je l'ai dit, le président n'était pas obligé, avec le gouvernement, il n'était pas obligé de signer un quelconque accord de paix. Le président très bien pouvait dire que non, moi j'ai été élu sur la base d'une constitution, les groupes armés je ne les reconnais pas, je les combats. Mais à cause de la paix, comme l'ont dit certains ici, il a fait un geste politique exceptionnel. L'accord de paix, c'est un texte exceptionnel. Il n'a pas vocation à durer dans le temps, comme la Constitution.
Ok, monsieur Brian Reboise, les groupes armés qui occupent le territoire, qui font main basse sur les ressources naturelles et autres, pensez-vous que par un simple écrit et engagement de signature, vont-ils aujourd'hui accepter de s'autodissoudre au bénéfice de la paix et abandonner ceux dont ils ont l'habitude de gagner, si on ne les contraint pas à la reddition?
Je pense que les groupes armés dont nous parlons aujourd'hui, nous parlons des groupes armés, nous parlons des accords. Il y a aujourd'hui 8 accords, c'est le 8e, mais il y a eu le premier accord. Mais ce premier accord a été signé avec qui? Avec les mêmes personnes. C'est avec les mêmes personnes. Aujourd'hui, la rébellion, c'est une entreprise lucrative, ça marche normalement. Ça permet à certaines personnes d'avoir une légitimité au sein du gouvernement. Aujourd'hui, même les intellectuels courent derrière les groupes armés. Regarde le contenu de leur communiqué. Toi, tu penses que c'est des idiots qui écrivent? Les groupes armés, voilà, avec cet accord pratiquement, qu'est-ce qui se passe? C'est que les groupes armés envoient des bras cassés au gouvernement pour aider le gouvernement à perdre. Et eux, ils recrutent des intellectuels. Parce qu'eux-mêmes, un idiot ne peut pas faire l'idiot, c'est ce qu'il est déjà, il ne peut pas faire. Mais un intelligent peut faire un idiot. Ouais. Et donc, ce qui est important, au niveau par exemple des garants, je vais vous dire les choses, il y a deux choses à savoir importantes que vous devez savoir. Le FPRC, c'est-à-dire je parle de Noureddin Adam, de Abdoulaye Hussein, ces deux-là, avec les autres, c'est une affaire de groupe d'intérêt économique que disputent deux groupes ethniques, les Goula et les Runga. À partir de M. Daras, parce que je ne peux pas me permettre de commettre ce blasphème de l'appeler général, un peu de respect pour les autres généraux qui ont fait l'école de guerre que je respecte, avec qui
mais il arbore les étoiles quand même.
Non, ça, c'est, ça n'engage que ceux qui l'appellent général. Moi, je ne peux pas l'appeler. C'est déjà une forme de reconnaissance tacite. C'est M. Daras, c'est un civil. Il faut respecter ça. Et qu'est-ce qui s'est passé juste au lendemain de la signature des accords? C'est-à-dire le 11 juin. L'accord a été signé le 6 février. Le 11 et le 12 juin, M. Baradjian, qui est le responsable du sous-bureau des Nations Unies, est parti voir Daras pour lui poser deux questions. Il a dit, M. Daras, en venant, j'ai vu au moins 8 barrières. J'ai vu encore des hommes armés jusqu'aux dents. Et pourtant, au lendemain des accords de Khartoum, l'engagement a été pris pour que les barrières soient levées. Daras lui répond, je ne suis pas là pour répondre à ce genre de questions. Il dit, ok, je vais continuer. Monsieur Daras, donnez-moi la liste de vos combattants pour permettre de faciliter
le DDR.
Le DDR. Il dit qu'il est trop fatigué et il ne veut pas répondre à ce genre de questions. Monsieur Baradjeng lui dit, Monsieur Daras, je suis civil, je ne suis pas militaire. Mais je suis venu avec les moyens, je peux te détruire. Je te donne 2 jours. Je pars à Mobaï, je reviens. Tu tiens le même propos, je te détruis. Il part à Mobaï, il revient. Daras est devenu comme poule mouillée. Il a présenté ses excuses. Il a expliqué que vraiment, il n'était pas bien, mais il va tout faire.
Donc, si je vous comprends bien, aujourd'hui, Ali Daras a peur. Il peut aussi être contraint par la force, mais c'est par manque de volonté que Ali Daras continue de s'agiter.
Mais c'est un humain. C'est un humain. Et voilà ce qui s'est passé. Après, il s'est débrouillé pas mal. Je vous dis que Ali Daras a plus de moyens, beaucoup de moyens, parce qu'il est soutenu par un conglomérat de milliardaires peuls. Là où je vous parle, depuis le 2, ils sont au Gabon. Ils ont mis en place ce qu'on appelle RTF, Radio-Télévision Fulbe, géré par un grand milliardaire. Ils sont partis déjà au Gabon, ils ont ouvert leur chaîne. Là, aujourd'hui, ils sont au Sénégal, depuis hier. L'objectif, c'est pour eux de renverser l'influence de Wolof. Après, là, ils vont venir ici. À Bambari, dans 2 mois, il y aura la télé, radio, Peul qui va émettre. Ça, je vous dis la vérité. Face à ça, il a fait une épuration au sein de son mouvement. Les Peuls centrafricains qui le soutenaient sont beaucoup plus de sultanat de Niamey-Lewa. Il a pris le numéro 2 qui est centrafricain Peul de Niamey-Lewa. Il l'a envoyé à Mobaï. Il a amené son cousin qui est venu un général à la retraite de l'armée du Niger qui aujourd'hui le seconde. Ok, écoutez-moi très bien, on est en train de parler de quelque chose de sérieux. Je suis en train de donner des informations pour aider les décideurs à savoir de quoi il s'agit réellement. Ok. Et donc, après cela, le seul centrafricain qui est aux côtés de Ali Daras aujourd'hui, toujours de Niamey-Lewa, c'est M. Moussa Aliou. Il est avec son frère, il a une licence de mathématiques ici à Bangui. C'est lui qui est porte-parole adjoint et interprète de Ali Daras. Ok. Il n'est pas payé moins de 4 millions par mois. Vous pensez que c'est avec le salaire que Ali Daras gagne en tant que ministre qui l'oblige à payer les gens chers, à recruter les gens? Non. Je vous dis que les deux calendriers de Ali Daras sont opposés. Tout ce qui se passe, c'est pour eux une occasion. Une aubaine, ils cherchent seulement à gagner du temps et à mettre en place le califat depuis Waka, Mbomou, Ombomou, etc.
Okay.
La personne, non, je finis. La personne qui avait été désignée pour remplacer M. Simplice Sarandi, c'était Pangré Bada. C'était Pangré Bada.
Mais c'est qui alors?
Je t'ai le nom. Mais c'est quelqu'un qui avait pris part à cette réunion au sud du Nigeria, qui est un cadre ici, qui était... Voilà. Voilà pourquoi 2 semaines après, on a voulu demander la démission de Grébada à l'autre. Parce que l'objectif, c'est pas ça. Je vous dis que même Sarandi, son départ a été décidé loin. Bon, maintenant, une chose importante au niveau des garants, s'il vous plaît. Ne me coupez pas trop parce que ça risque de m'énerver.
Mais nous avons un temps de parole pour
oui.
toutes...
Non.
Oui.
Je vais vous dire une chose. Non, je finis. Donnez-moi 1 minute. Vous allez parler de garants. Les Nations Unies avaient déjà posé l'acte qu'il fallait pour régler l'affaire de Daras avec l'intervention de Baradjeng que je connais très bien. Qu'est-ce qui s'est passé après? Les Nations Unies ont dit que la seule solution, c'est l'initiative de l'Union africaine. Même le ministre Jean-Yves Le Drian est venu ici à Bangui dire que l'initiative de l'Union africaine. Mais sinon, qui dirige l'Union africaine? Qui gère cette crise-là aujourd'hui entre nous? C'est qui? C'est M. Tshergui, oui ou non?
Mais c'est un appui de la communauté internationale.
Voilà, c'est M. Tshergui. Est-ce que l'Union africaine a une politique? Non. L'Union africaine, on lui dicte ce qu'il faut dire. Aujourd'hui, M. Tshergui est en train de faire la politique étrangère de l'Algérie. Et l'Algérie a une dent gardée contre la RCA depuis. Depuis d'abord 1984.
Mais non, je vous explique. Les Centrafricains ne sont pas dus pour accepter cette situation. La proposition a été faite, ça a été travaillé pendant des mois, des jours pour arriver à l'accord. Donc nous comprenons...
Ça a été travaillé par qui?
Par les Centrafricains, eux aussi, ils ont réfléchi avant d'accepter de valider. Mais nous donnons la parole à M. Beninga. M. Beninga, que pensez-vous aujourd'hui de la justice? Parce que l'accord de paix n'a pas mis de côté la question de la justice. Or, jusqu'à aujourd'hui, la justice balbutie un peu.
Je vais répondre à la question de la justice. Permettez-moi de rebondir sur 2 aspects très rapidement. J'ai entendu dire autour de cette table ici que l'État n'a pas de moyens. Non, moi, je ne veux plus répéter cette phrase. Je ne veux plus que les gens en parlent parce que tel qu'on en parle, ça donne l'impression effectivement que les groupes armés sont surarmés. Ils peuvent être surarmés, mais ils n'ont pas la technique qu'il faut pour combattre. Et je pense qu'avec un peu de volonté politique, avec un peu de détermination, avec un peu de patriotisme, nos forces armées centrafricaines peuvent bien défaire les groupes armés. C'est c'est une question de tactique. Donnons juste l'occasion une seule fois au FACA de combattre ces gars. Vous allez voir comment est-ce qu'eux-mêmes ils vont rentrer dans la bosse pour ne plus jamais revenir. Si vous voulez, c'est des vendeurs d'illusions. Je n'ai pas peur d'Ali Darassa, je n'ai pas peur d'Al-Khatim, je n'ai pas peur de 3 heures. C'est des vendeurs d'illusions. Ils ne peuvent rien faire face au FACA. Dites juste aux garants de laisser libre cours au FACA. Et moi, j'ai pas envie de dire aux garants qu'on ait de la détermination et qu'on passe outre ce que les gens racontent dans les chancelleries et qu'on prenne à bras le corps la situation de notre pays. Deuxième chose, je voulais rassurer Dr Irino, il n'y aura pas l'an 2. Parce que j'avoue que la société civile a péché cette fois-ci. On aurait pu empêcher ce qui s'est passé au palais, mais on s'est fait surprendre. Et je pense qu'il n'y aura pas l'an 2, du moins pas dans la capitale centrafricaine. Ali Darassa ne viendra pas fouler le sol de la capitale centrafricaine pour narguer les victimes de cette crise. Il en est de même pour Sidiki. Et je sais que Sidiki est malade, il est à Bangui. Je sais là où il est habité, mais je pense qu'on ne lui donne pas plus d'une semaine. Je sais là où Sidiki est logé à Bangui. Il est bien malade. Je sais là où il est logé, mais Sidiki, c'est pas une préméditation. Que cela même soit considéré comme une préméditation, j'assume l'entière responsabilité de ce que je dis. Maintenant, je réponds à votre question. Votre question, c'est la justice. Mais je vais vous dire une chose. De quelle justice parlons-nous? Regardez ce qui se passe. Le verdict, si vous voulez, ou l'arrêt rendu par la session criminelle vient de tomber, condamnant un certain nombre de jeunes centrafricains qui, au plus fort de la crise, ont pu organiser une défense. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas commis des infractions. Les faits qui leur sont reprochés sont avérés. Mais ce que je voulais dénoncer ici, cette affaire de deux poids deux mesures. Vous savez que Abdoulaye Hissène a été condamné par contumace. La loi, c'est la loi. Il a été condamné par contumace. Ça veut dire que s'il foule le sol centrafricain ou s'il foule un espace centrafricain où la justice peut exercer, effectivement, il devait être interpellé. Et j'étais en prison. Ça n'a pas été le cas. Abdoulaye Hissène, ça n'a pas été le cas.
Donc, vous pensez qu'il y a eu justice à la tête de client?
J'ai pas envie de dire ça, mais c'est véritablement le cas. Et c'est dommage, c'est regrettable. Ça donne pas l'envie, effectivement, de croire à la justice de notre pays. Ça donne pas l'envie qu'on a cette volonté, effectivement, de résoudre ce problème. On me dirait ici, du point de vue politique, qu'il y a un temps pour tout et que le moment viendra.
Monsieur Évariste Ngamana, en signant l'accord, le gouvernement considérait les groupes armés comme étant partenaires de la paix. Est-ce qu'aujourd'hui, les groupes armés restent des partenaires du gouvernement pour la paix?
Je voudrais d'abord que nous puissions dépassionner ce débat. Je crois que il y a des vérités qui sont en train de sortir ici. Nous devons le dire de manière dépassionnée. Dire que le gouvernement a comme pour partenaire les groupes armés, c'est faux. D'ailleurs, c'est ce que le chef de l'État a relevé hier. Parce que d'aucuns pensent que dans cet accord, il y a une compromission.
Non, aussitôt après l'accord, on a mis aussi le panneau.
J'en viens.
Nous avons les partenaires de la paix.
Laissez-moi poursuivre mes idées. Permettez que je revienne très rapidement là-dessus.
Oui.
Vous présentez quelques données statistiques, des engagements qui ont été pris et respectés de part et d'autre. Nous avons, sur les 21 engagements du côté du gouvernement, il y a au moins 16 qui ont été appliqués. 16 sur 21. Du côté des groupes armés, sur les 10 engagements, 10 seulement, c'est-à-dire la moitié de ce que le gouvernement avait comme engagement, seulement 2 ont été respectés, à peine 3. Mais comme il a dit Dr Irino tout à l'heure, même si ils ont été respectés, mais pas dans la totalité. Ça prouve déjà que non seulement une mauvaise foi, mais il y a une hypocrisie qui ne dit pas son nom du côté des groupes armés. Et comme le chef d'État, je répète encore, l'a souligné, il est temps que les garants et les facilitateurs passent de l'observation à la fermeté dans l'application des sanctions qui sont prescrites dans cet accord-là, à l'endroit des groupes armés récalcitrants ou bien réfractaires. Alors, dire maintenant que les groupes armés sont des partenaires, oui, quand on parle de partenariat, en ce sens qu'ils sont partie prenante à cet accord,
au processus.
Et aussi, comme l'autorité suprême l'a souligné dans son discours, il a dit que c'est une marche patiente vers la paix parce que nous n'avions pas une autre alternative, etc. Mais le partenariat doit se faire de manière sincère. Vous savez que il y a plusieurs engagements qui ont été pris dans cet accord-là, en ce qui concerne les groupes armés. Nous avons d'abord en premier lieu la dissolution de tous les groupes armés 3 mois après la signature de cet accord. Si vous voulez, même 3 à 6 mois. La mise en place des unités spéciales mixtes de surveillance qui doit être placée sous le haut commandement des FACA et qui a une durée de vie de 2 ans. Or, nous venons déjà de passer 1 an. Au jour d'aujourd'hui, il y a les USMS qui ont été mises en place dans l'Ouest, notamment à Bois. Des précautions sont en train d'être prises pour que les USMS du Nord voient le jour au niveau d'un délai. On est en train de préparer le camp, etc. Mais c'est juste une période transitoire pour passer de cette organisation des groupes armés-là à une vie normale, comme l'a souligné Dr Irono en parlant de la constitutionnalité qui devait être dans la République où nous sommes. Donc, nous voyons qu'ils sont en train de nous distraire. Et le temps est en train de passer. Et le peuple centrafricain ne peut pas continuer à souffrir à accepter que ces groupes armés qui continuent de tuer, de piller, continuent de faire ce qu'ils sont en train de faire.
Okay,
donc, mais... c'est pour vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, s'ils veulent être considérés, non seulement au niveau national, sur l'échiquier national comme international, comme des partenaires sérieux, il faut qu'ils commencent par respecter les engagements qu'ils ont pris à travers l'accord politique pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine.
Ok, monsieur Evariste Ngamana, en écoutant votre développement, j'ai envie de vous poser cette question. Le gouvernement se félicite d'avoir mis la pression sur 3R de Sidiki pour le contraindre à faire le désarmement et à se retrancher de sa périmètre pour être ici à Boire. Qu'est-ce qui empêcherait aujourd'hui le gouvernement de mettre la même pression sur les autres groupes armés qui persistent et qui continuent de semer le chaos?
Mais qui vous dit que la pression n'est pas mise sur ces groupes-là? Le gouvernement travaille de tout temps. Dès qu'il y a un moindre regain de tension, le gouvernement avec les partenaires, les parties prenantes à cet accord se réunissent dans le cadre du comité exécutif de suivi, etc. Définissent des recommandations. Je vous ai parlé tout à l'heure que sur les 6 rencontres qu'il y a eu, il y a eu au moins 51 recommandations, dont une vingtaine ont été déjà exécutées, une quinzaine en cours d'exécution et 5 qui ne sont pas encore exécutées. Donc, je crois que de la part du gouvernement, il y a un effort qui est fait dans ce sens-là. Mais les moyens coercitifs se trouvent entre les mains de la communauté internationale et à travers son bras armé qui est la MINUSCA.
Okay.
C'est la MINUSCA qui a permis à ce qu'on puisse arrêter la folie des hommes de FDPC, 3R, et il faut poursuivre. Vous voyez, moi je n'ai pas été totalement d'accord ces derniers temps quand on avait annoncé sur les ondes de Ndekeluka un peu partout à travers la voix du porte-parole de la MINUSCA, qui est M. Montero, pour dire que la MINUSCA avec les FACA est en train de démanteler les barrières érigées par l'UPC. Mais vous parlez, comment on peut faire? La seule solution, c'est de réduire la capacité
de nuisance
de l'UPC. Ce n'est pas ce
donc
scénario.
Vous considérez ça comme une mise en scène?
Je le dis à qui veut l'entendre, parce que c'est une mise en scène. Le peuple a assez souffert. On ne peut pas comprendre qu'on va seulement enlever des barrières. Les gens peuvent se retirer, vous passer et ils remettent les barrières en place. Aujourd'hui, partez de Bokolobo jusqu'à Alindao, vous allez constater que les gens de l'UPC sont là. C'est une vérité. Il ne faut pas qu'on trompe le peuple.
Okay,
Il est temps, comme a dit le chef de l'État, que nous passions de l'observation à la fermeté. Parce que ceux-là n'entendent que la voix de la force. Il faut utiliser la politique du bâton et de la carotte. C'est comme ça qu'on peut arriver à ramener tout ce monde-là dans la République.
Oh, j'espère que c'est compris le message. Monsieur Dominique Erénon, l'un des enjeux de cet accord, c'est aussi les élections du 27 décembre 2020 qui arrivent bientôt. Avec la situation où nous tous nous venons de brosser ici autour de ce plateau, pensez-vous que les élections de 2020 seront équitable où tout le monde aura la même égalité de chance pour pouvoir battre campagne si les groupes armés gardent encore leur capacité de nuisance?
Très bien, mais je vous répondrai en disant ceci. On va aller aux élections le 27 décembre 2020. Et l'élection du président de la République, par exemple, c'est au suffrage universel direct. Ce n'est pas au suffrage universel indirect. C'est l'article 35 de la Constitution du 30 mars qui le dit. Le président est élu au suffrage universel direct, c'est-à-dire par qui? Par l'ensemble des Centrafricains. Mais aujourd'hui, vu la situation sécuritaire, si on n'arrive pas à appliquer cet accord assez rapidement pour faire en sorte que les Centrafricains qui se trouvent dans les localités occupées par les groupes armés puissent aller effectivement voter, eh bien, on ne va pas se retrouver avec un suffrage universel direct. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir l'ensemble des Centrafricains qui vont voter. Le suffrage universel direct, ça a des implications. L'implication, c'est quoi? C'est le vote. Et le vote, c'est quoi? C'est le vote du citoyen. Le citoyen, pas seulement celui qui se trouve à Mangui, celui qui se trouve à Bokolobo, là où Ali Daras contrôle, à Kembe, à Alindao, à Pawa, je ne sais pas moi, Bria,
Bambouti.
Partout, il faut que les Centrafricains puissent effectivement voter. Pour qu'on dise que le président a été élu au suffrage universel direct et qu'il est l'émanation de la volonté de tous les Centrafricains. Pour lui donner une certaine légitimité assez forte sur le plan politique. Pour le porter, pour lui donner plus de légitimité, il faut qu'il soit élu par tous les Centrafricains. Aujourd'hui, la situation est telle que sur le plan sécuritaire, s'il n'y a pas d'amélioration, je pense que si le groupe armé essaye de revenir à la raison, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'ils font leur retour dans la République en s'auto-dissolvant rapidement, et ils n'ont pas le choix, ils doivent s'auto-dissoudre. C'est un engagement qu'ils ont pris, ils doivent le respecter. Aujourd'hui, avec l'an 1, on doit demander aux groupes armés de s'auto-dissoudre. Et s'ils ne le font pas, eh bien qu'on ne compose plus avec eux.
Ok.
Absolument.
Monsieur Aristide Briand-Reboise, vous avez parlé tout à l'heure de l'agenda de l'UPC. Avec les élections, si l'UPC, par exemple, n'est pas désarmé, aura-t-il des coudées franches pour pouvoir dérouler ou mettre en musique son agenda sur les élections?
Rien ne l'empêche. Aujourd'hui, on parle des élections. Mais est-ce que c'est dans l'intérêt des groupes armés qu'il y ait des élections? Mais non. Vous attendez que les groupe armé revienne au bon sentiment et dans l'état de droit. Je vous dis que même si le coq chante 10 fois, ils ne reviendront pas. Il faut attendre peut-être après le retour de Jésus pour espérer voir ces choses-là réalisées. Ils ont un agenda qui les empêche parce que la paix permettra de cesser les activités. Ils ont un contrat durée indéterminée. Ça a créé un appel d'air terrible. Tu parles de quelle république, M. Irénon? Parce que eux, ils ne sont pas pour beaucoup des centrafricains. Tout ce qui les intéresse ici, c'est de profiter de la manne qui est en République centrafricaine. C'est tout. C'est des gens qui ne seront jamais... Être centrafricain ne veut pas dire posséder une carte d'identité centrafricaine. Voyez bien ce qui se passe aujourd'hui en Centrafrique. Qui pouvait penser que Tiangaï allait être l'avocat de Bozizé? Qui pouvait penser que M. Béa et Mekasso allaient être des copains aujourd'hui? Et qui pouvait même, bien avant l'arrivée de Bozizé, avec tout ce qui s'est dit, qui pouvait penser que Bozizé et Touadéra, bras dessous, hier au palais, en train de rigoler, ils étaient heureux? Parce que ça, c'est notre génie centrafricain. On ne laisse jamais passer une année sans pour autant demander pardon entre nous. C'est ancré dans notre culture. On discute, on se tire entre les pieds, mais à la fin, on trouve toujours un moyen de se réconcilier. Mais ceux qui ne sont pas centrafricains ne sont pas concernés par cette situation. Maintenant, question d'agenda caché. Je vous dis, je ne vous parle pas de ce qui va arriver demain. Je vous parle, peut-être qu'ils sont déjà arrivés, peut-être que Daras est arrivé avec le dossier pour la mise en place de RTF ici. Il y a des gens qui sont formés et préparés, des juristes qui ont été recrutés, qui commencent déjà. Ils vont nous prendre d'assaut, 10 millions de peuples vont arriver. À Bambari, vous allez voir que bientôt les Centrafricains seront étrangers chez eux.
Okay.
La solution, simple, sur le plan militaire, je m'aligne vers Beninga pour dire que on ne va pas en guerre avec un moyen qu'on espère avoir, mais on va en guerre avec les moyens de bord. Et que question de résolution, c'est vrai. Qu'est-ce qui nous empêche de nous-mêmes prendre la plume et rédiger, déposer nous-mêmes en tant qu'État notre résolution? Personne. Mais et pourtant, on n'a jamais fait. Aujourd'hui, on crie la France, mais nous-mêmes, la diplomatie centrafricaine, son rôle, c'est quoi? Regarde, la Guinée équatoriale. J'étais associé et même M. Irénon a été consulté à distance. L'objectif, c'est quoi? On me dit, M. Reboise, dans votre premier livre, vous avez bien expliqué le mercenariat. J'ai donné l'aspect que je pouvais. Et l'aspect juridique, je dis, ben, vous voyez, avec un consultant centrafricain, etc., s'il peut vous aider. La résolution a été déposée au Conseil de sécurité. La première lecture s'est passée et c'est en train d'évoluer positivement. Aujourd'hui, la RCA souffre. La RCA n'est plus une jeune fille. La RCA est une grande fille aujourd'hui. Et que quand tu es malade et quand tu es adulte, c'est à toi de dire de quoi tu souffres pour que le médecin te soigne. Si c'est un bébé encore, quand un bébé pleure, tu vas dire qu'en tant que papa que je suis, peut-être il a fait pipi, peut-être il vient de faire ses dents, peut-être qu'il est malade, il faut voir un médecin. Mais un grand garçon, une grande fille, comme la RCA, 60 ans l'indépendance, on est incapable de prendre notre plume, de rédiger, de dire les mots dont nous souffrons, avec des juristes, des anthropologues, des historiens que nous avons, pour aller déposer, demander pourquoi l'embargo devrait être élevé. On dit c'est la France. Après on dit c'est la cause de la France. Mais non, okay. Ça c'est nous.
Ok, nous avons compris. Monsieur Paul Christian Beninga, l'heure court plus vite. Nous allons vers la fin. Pensez-vous qu'avec la situation actuelle, les élections de 27 décembre 2020 seront une occasion pour tous les Centrafricains de se prononcer, même ceux qui sont dans les zones sous contrôle des groupes armés?
Non, c'est extrêmement compliqué. C'est extrêmement compliqué d'envisager les élections à bonne date, mais il ne faut pas totalement désespérer. Ce qui fait en sorte que ce sujet est devenu un sujet tabou, c'est parce que se cache derrière la question du report des élections une intention, bonne ou malsaine, c'est de dire que s'il y a glissement du calendrier électoral, il faut qu'il y ait une transition. Moi, je fais appel au génie centrafricain. C'est de dire que si il arrive qu'il y ait glissement du calendrier électoral, il faut nécessairement dégager un consensus au sein de la classe politique, au sein des forces vives de la nation, pour pouvoir négocier en commun accord avec la Constitution. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'en République centrafricaine, lorsqu'on parle des élections, que ce soit avant, que ce soit pendant, que ce soit après, on rentre dans une zone d'incertitude. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a des raisons fondées, Dr. Renon l'a évoqué ici, pour pouvoir envisager un report de ces élections. Parce que ceux qui sont à Bambouti, ceux qui sont à Birao, ceux qui sont dans les villes qui sont occupées par les groupes armés et qui n'entendent pas libérer ces villes-là ont droit et ont le devoir également d'exercer. C'est ce droit-là, ce droit au vote. Et à partir de ce moment, il faut que toute l'étendue du territoire soit libre pour que tous les citoyens centrafricains puissent voter librement, pour que la légitimité du chef d'État ne soit pas contestée. Et de ce point de vue-là, je pense que c'est extrêmement important.
Ok, monsieur Évariste Ngamana, en quoi cela vous inspire la situation actuelle liée aux élections de 27 décembre 2020 ?
Bien, nous avons une constitution qui est là, il faut la respecter. Je crois que le devoir pour nous, centrafricains, ou bien notre espoir, c'est qu'il puisse avoir des élections d'ici décembre 2020, comme c'est prescrit. Seulement, je voudrais juste porter à l'attention de tout le monde centrafricain qui nous écoute en ce moment que la MINUSCA a reçu mandat non seulement de sécuriser le processus électoral, mais de mettre à disposition des moyens logistiques. Donc, nous espérons que d'ici là, et même à partir d'aujourd'hui, que ces moyens-là conséquents soient mis en place pour que le processus électoral se déroule comme il se doit et que nous allons vers des élections apaisées, transparentes, pour ne pas que demain il y ait contestation des résultats qui vont créer encore d'autres crises.
Mais le déterminant, c'est la sécurité.
Le déterminant, c'est la sécurité. Puisqu'ils ont reçu mandat pour protéger ce processus, j'ose espérer qu'ils vont le faire.
Ok, c'est sur cette note que prend fin notre émission en français. Nous avons débattu de l'accord de paix du 6 février. Quel bilan un an après? Et pour débattre de cette question, nous avons reçu autour du plateau M. Aristide Bouillon-Reboise, président du Parti chrétien démocrate. M. Henri Bouillon-Reboise, merci d'être de nôtre.
Merci M. Kouin.
Nous avons reçu aussi M. Évariste Ngamana, directeur de cabinet au secrétaire général du gouvernement et porte-parole du parti MCU. Monsieur Évariste Ngamana, merci d'être passé.
Merci Jean-Fernand.
Nous avons reçu aussi Monsieur Dominique Désiré Erénan, constitutionnaliste, enseignant-chercheur. Monsieur Dominique Désiré Erénan, merci d'être de nôtre.
Merci Monsieur Kouina.
Paul Cresson Beninga, l'habitué de l'émission. Monsieur Paul Cresson Beninga, merci d'être là.
Merci beaucoup.
Émission Patara, je vous donne rendez-vous le week-end prochain, même heure, même fréquence.